Quand les études sur les paysanneries ont connu un nouvel essor dans le monde anglophone, dans le sillage de la guerre du Vietnam, le principal débat critique a porté moins sur la disparition des paysans, selon Henri Mondras, que pour répondre les mots de Théodore Chanin sur la non-disparition des paysans. Étant donné que le féodalisme et le servage, les structures des propriétés foncières et du travail qui avaient défini les paysans, avaient été abolies au cours du XVIIIe et du XIXe siècle, les paysans n'auraient-ils pas dû être intégrés dans une société de classe? Beaucoup de commentaires du XIXe siècle ont affirmé, ou au moins espéré, que ce serait le cas. Comment donc pourrait-on expliquer la survivance des fermes familiales fondées sur le travail familial comme base de l'agriculture, non seulement en France, mais aussi dans de nombreuses autres parties du monde, jusque tard dans le XXe siècle? Des sociologues, anthropologues ou historiens des années 70 ou 80 ont proposé différentes analyses marxiste et non marxiste pour expliquer l'échec du capitalisme agricole à éradiquer la petite propriété paysanne. Bien que le Journal of Peasant Studies, fondé en 1973 par Chanin et ses collègues, existe toujours, le tournant culturel de la fin des années 80 a porté un coup sévère au sujet éponyme de cette revue. Paysan a cessé d'être une catégorie sociale, mais est plutôt devenu un symbole. La plus claire démonstration de cette nouvelle approche historique est proposée par James Lenning dans son livre Peasant and French, dans lequel il défend l'idée que toutes les histoires de la modernisation et de l'acculturation du monde rural sont à la base des débats intellectuels. Il écrit ainsi: le discours français sur la campagne a été un instrument par lequel une culture crée sa propre version dans ses propres termes d'une autre culture. Selon Lenin, le terme paysan n'était pas une identité projetée par les habitants ruraux, mais un label imposé par d'autres, avant tout dans un but d'exclusion. Il faut dire que plusieurs de mes collègues en Angleterre et même certains de mes propres étudiants m'ont dit avoir abandonné ce terme pour ces raisons. Toutefois, une voie alternative pour négocier le tournant culturel pourrait être de réfléchir aux manières dont les populations rurales ont exprimé leur propre identité sociale. Comment s'imaginaient-ils collectivement et comment envisageaient-ils leur relation aux autres groupes sociaux? La non-disparition des paysans pourrait être moins l'échec du capitalisme que le résultat des liens culturels qui donnaient aux paysans du sens à ce qu'ils étaient, des choses communes à partager, une haine collective. Une source possible pour réparer ces liens pourrait être le souvenir des souffrances et résistances collectives telles que préservées dans la culture orale du monde rural. Le féodalisme qui a créé la catégorie du paysan pourrait avoir été aboli sans avoir nécessairement été oublié. Autrement dit, les populations rurales du XIXe siècle se souviennent-elles de l'Ancien Régime et jusqu'à quel point ces souvenirs continuent-ils à influencer le comportement? L'existence d'une mémoire collective du féodalisme permettrait de donner une nouvelle vigueur à la catégorie de paysans. Des références à de tels souvenirs apparaissent régulièrement dans les autobiographies du XIXe siècle. L'anarchiste Pierre-Joseph Proudhon répétait des histoires que sa mère lui avait racontées à propos de son grand-père, soldat, laboureur et chanteur de chansons révolutionnaires connu sous le nom de Tournesi. Tournesi aurait apparemment tué un garde forestier qui travaille pour le seigneur de Beaufremont alors qu'il ramassait du bois dans une forêt disputée entre les villageois et le seigneur. Coudon a grandi en pensant qu'il ressemblait physiquement à son grand-père, et il a accepté son héritage. Quand il se mettait en colère à cause de ce qu'il percevait comme des injustices, il disait « Le sang du vieux tournesé me montait ». Autre exemple. La communade Louise Michel se souvenait des histoires des bandits féodaux racontées dans sa jeunesse aux veilles de femmes, dites écrènes en dialecte, dans son village de Vrancourt. Elle écrit « De mes soirées à l'écrène date un sentiment de révolte que j'ai aussi retrouvé bien souvent. Les souvenirs de féodalisme étaient donc cruciaux dans la formation de jeunesse de ces révolutionnaires, mais il s'agit là d'individus. Et qu'en est-il d'une mémoire collective ? Bon, de nombreux commentateurs du XIXe siècle qui ont écrit sur l'état de la paysannerie française ont insisté sur l'importance d'une mémoire collective du féodalisme. Des préfets et autres administrateurs ont régulièrement cité cette mémoire collective pour expliquer le comportement paysan durant les élections ou comme étant la cause de perturbations au sein du monde rural. C'est le cas du pillage de l'église paroissiale de Chevonceau, Charente-Inférieure, en 1868 par des groupes armés de villageois venus des communes voisines parce qu'ils croyaient, dit le procureur général de Poitiers, que le don par le marquis de Lestrange de plusieurs vitraux montrant ses armoires annonçait le rétablissement de la dîme et le retour de l'ancien régime. Pourquoi donc les doigts féodaux ont-ils excité dans le cœur du peuple une haine si forte qu'elle servit à son objet même et semble ainsi inextinguible ? Demande pour sa part Alexis de Tocqueville. Aussitôt qu'en 1891, le journaliste Henri Fouquier, décrivant le mois qu'il a passé parmi des paysans, invoque le souvenir féodal encore vivace. L'artiste anglais Philip Hamilton, qui a résidé en Bourgogne dans les années 1860-1870, explique pour sa part l'anti-royalisme paysan à ses lectures britanniques en écrivant « L'une des principales raisons de l'essor du républicanisme dans la paysannerie et leur récente croyance selon laquelle Henri V venait sur le trône, il rétablirait les anciennes corvées. Une idée très erronée. Bien sûr, comme toutes celles qui germent subitement dans le monde des incultes, mais qui a servi la République. Un royaliste m'a dit qu'il croyait que cette idée avait été ingénieusement diffusé parmi les paysans par la propagande républicaine. Très probable. Et pourtant, tous les efforts auraient été complètement inutiles s'il n'y avait pas un flot de rumeurs et d'opinions paysannes pour faire circuler cette idée. Un flot que aucun art, savoir, sagesse et compétence des classes instruites ne peut prévoir ou diriger, et à laquelle même la plus prodigieusement faute et méticuleusement parfaite organisation de l'Église de Rome est totalement incapable de faire face. Bah, tout ceci est bien connu. Les historiens de la France rurale comme Albert Sobule et Alain Corbin ont suivi ces commentateurs en affirmant que la mémoire collective du féodalisme a continué à façonner les relations politiques et sociales des campagnes jusqu'à loin dans le 19e siècle. Des historiens anglophones aussi ont également invoqué ce thème dans leur long débat sur la politicisation des paysans. Les souvenirs de l'ancien régime pourraient, selon Hamilton, avoir un rôle dans l'échec des candidats royalistes en Bourgogne, mais en Lozère, le même phénomène a été cité pour expliquer, au contraire, le succès électoral de la noblesse. Selon Peter Jones, les habitudes serviles se prolongent pendant la Troisième République. La féodalisation de la politique démocratique était en partie attribuable à l'ombre du régime seigneurial. Jones, Roger Price et, d'une façon plus connue sans doute, Eugène Weber, ont insisté sur le fait que les électeurs ruraux n'ont pas réellement participé à la politique nationale en débattant des questions nationales selon des critères politiques modernes. Weber disait plutôt, en parlant du boulangisme, je cite, le clan des électeurs, le maine des électeurs, le vote des électeurs était choisi par des souvenirs et des décisions qui restaient obstinément locales, quel que soit l'hommage superficiel fait aux nouveaux idiomes nationaux. Price, dans une récente histoire de l'Empire, préfère parler de mythes. Mythes qui ont influencé la façon dont les paysans ont pensé la politique et qui ont prolongé les gestes du passé. Jones parle plutôt d'atavisme au sujet du sud du Massif central. Et plus spécifiquement, je cite, spectre cauchemardesque des dîmes, rentes, lots et corvées. Il écrit, les contes populaires qui parlent de gerbes de blé apportées au château ou des granges monastiques continuaient à exciter l'attention des petits-enfants et même des arrière-petits-enfants de la génération révolutionnaire. Mais de quel camp parle-t-on? Quel mythe? Quel souvenir? Jones n'en cite aucun et ne mentionne aucune source. Il en est de même pour tous les historiens que j'ai cités précédemment. Il pointe du doigt les choix paysans comme les modèles de vote ou les actions paysannes comme les attaques contre les vitraux, mais ils ne peuvent que déduire de ces événements des choses qui n'étaient pas mises par écrit à l'époque, à savoir des mémoires et des consciences paysannes qui auraient inspiré leur comportement. Ces souvenirs étaient transmis oralement et non mis par écrit. Ils circulaient dans des lieux fermés, loin des regards des seigneurs, du clergé, des administrateurs, sur lesquels les historiens doivent se reposer pour obtenir des sources sur les attitudes paysannes du 19e siècle. Peter McPhee, dans un livre sur le meurtre de l'ancien seigneur du village de Villesèque des Corbières en 1830, se réfère au concept d'un discours subalterne développé par l'anthropologue James Scott, à savoir une histoire et idéologie circulant parmi les opprimés et délibérément dissimulée aux yeux des puissants. Ce n'était pas à l'œuvre uniquement en 1830, puisque McPhee note dans les années 1990, les villageois d'aujourd'hui, parmi lesquels les descendants de ceux qui ont été les plus impliqués dans les événements de 1830, savent bien qui a tiré les coups sur le Seigneur, mais ils ne diront pas. Bon, devons-nous, en tant qu'historiens, nous résoudre à ne rien connaître du contenu de ces mémoires, mythes, atavismes? Moi, je préfère, pour ma part, le mot tradition. Est-ce qu'on condamne à l'ignorance quant à qui les a transmis ou qu'on est acquis? Ces mémoires étaient-elles communales, régionales, nationales? Avant d'admettre la défaite, il serait bon de se tourner vers les archives ethnographiques du 19e siècle. J'ai souvent remarqué que lorsque les sources historiques sont silencieuses, les sources ethnographiques nous procurent de l'information. En 1847, Michelet défendait l'idée que la légende, c'est une autre histoire, l'histoire du cœur du peuple et de son imagination. Il appelait ses lecteurs à collecter les traditions orales et à construire un grand légendaire de la France. Ce défi a été repris par George Sand et d'autres qui, à la fin du XIXe siècle, ont recueilli des traditions telles que ce récit. On dit qu'il avait autrefois à louer un méchant seigneur, faux dieu aux pauvres gens. Ce seigneur-là était propriétaire d'une grande étendue des terres, des bois, des landes, sur les territoires de Louis, c'est dans les Landes. Mais il avait défendu aux bergers et aux chevriers de faire paître le bête sur son bien, et même de les y faire passer. Un matin, il était allé voir une pièce de terre qu'il avait fait semer en pain. Et il trouva un chevrier qui menait son troupeau. Quand le chevrier aperçut le seigneur, il voulait faire retourner ses chèvres. Mais l'autre, fou de rage, fondit sur lui et commença à faire courir chevrier et chèvre en faisant galoper son cheval sur les talons du pauvre homme. Le malheureux demanda sa vite grâce. « Pitié, Seigneur, mon Seigneur, pardonnez-moi pour l'amour de Dieu. » Mais le monsieur ne faisait nul cas des paroles du chevrier. Et ainsi, sur plus d'un quart de lieu, il poussait devant lui le malheureux chevrier au trot de son cheval. À la fin, la colère gagna l'autre et saisit son fusil. Et sans sommation, il le déchargea sur le seigneur et le laissa mort sur la place. Ensuite, l'homme, pris de peur, s'enfuit et jamais on ne le revit dans la paroisse. Nul ne pleura le méchant seigneur. Et depuis lors, les pauvres gens de Louis furent libres de mener paître le bétail partout bon le semblait, sur la lande. À l'endroit où était mort le méchant seigneur, comme on ne lui avait pas rendu justice, la bruyère ne repousse jamais et le sable est toujours resté teinté de rouge. Cette histoire a été recueillie par le folkloriste Félix Anadin auprès de un Jean Mariolan, connu sous le nom Marianne de Mariolan dans les Landes. Comment peut-on qualifier cette histoire? Est-ce un souvenir, un mythe, un atavisme? Des folkloristes la qualifieraient de légende par opposition aux contes, la distinction se situant dans le fait que les contes sont des fictions conscientes, il était une fois, tandis que les légendes sont perçues comme étant vraies, souvent au sujet d'un lieu ou un moment spécifique. En fait, elles ont très souvent, comme c'est le cas ici, un but étiologique, expliquant une caractéristique du paysage. Une autre différence réside dans le fait que les contes peuvent être personnalisés, même idiosyncratiques, lorsqu'ils sont racontés, tandis que les légendes invoquent ordinairement une autorité collective du type « on dit que ». Cependant, comme Michelet, nous pourrions éviter tous ces termes et nous contenter de l'appeler « une autre histoire ». Qu'au fond, c'est une histoire vraie. Le 10 juin 1760, Bernard de Pic de Blaise de la Mirandole a été retrouvé mort sur le chemin entre la ferme de Gaillard et l'église de Louis. Anadin, qui a grandi dans les environs, connaissait des histoires de Monsieur Pic depuis son enfance, et il est allé aux archives pour déterminer si elles étaient vraies ou non. Mais les documents d'archives de 1760 n'ont rien révélé à part confirmer le décès. Ils ne lui ont rien dit sur la façon dont il est arrivé, parce que cette information n'a pas été connue des autorités. Cette légende est par conséquent une autre histoire, dans le sens d'un discours subaltern où elle révèle une connaissance des événements passés connus seulement au sein de la communauté paysanne. Elle offre non seulement un compte rendu des événements, l'histoire des faits, mais également une interprétation. Narrer, c'est une fonction de l'histoire, mais interpréter, c'en est une autre. À la suite de cette meute, les pauvres gens de Lué furent libres de mener part le bataille partout où bon le semblait. Voilà une façon saisissante et différente d'expliquer la fin de la féodalité que celle où il est offerte dans les livres universitaires d'histoire, dans lesquels les paysans ont été émancipés d'en haut par l'Assemblée nationale et la Convention. Mais dans la légende, l'émancipation est venue d'en bas. Le seigneur à cheval a été frappé par le fantassin des communes. Mais je dois admettre que la légende a fondu dans un seul événement, un conflit de longue haleine entre la communauté de Lué et le seigneur sur les propriétés et l'accès aux landes. Elle n'est pas une histoire complète, mais les légendes sont également des déclarations politiques. La conteuse peut avoir des raisons stratégiques pour souligner que cette émancipation était quelque chose réalisé par les paysans eux-mêmes et non par les législateurs. Cette légende n'est pas sans ses ironies. Pendant la vie de Marianne de Mariollon, les Landes ont connu une nouvelle et beaucoup plus drastique épisode d'enclosure. On dit enclosure en français aussi. Sous la pression du gouvernement, les communes avaient vendu les terres communes à des propriétaires privés qui, comme M. Pic, avaient exclu les ovins et les chèvres et au lieu ont planté des pins maritimes. Comme le chef effectif du clan Mariollon, Maria était l'un des agents de ce processus. Son identification avec l'opprobre monde, les pauvres gens de sa région, masque la transformation de la famille Mariollon de pasteur paysan en capitaliste à Baricol. En fait, il n'est pas du tout inhabituel pour les membres les plus riches et les plus réussis des communautés rurales d'être les porte-parole les plus éloquentes d'une identité collective paysanne. Ils ont le plus à gagner à nier la séparation des classes rurales et à affirmer l'existence sans pied éternel d'un « nous » qui rassemble les pauvres et aussi les coqs du village. Anna a imprimé une version de cette légende dans la revue de tradition populaire, la principale journal folklorique en France pendant la Troisième République. Elle a été éditée dès son lancement jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale par Paul Sébillot. Et Sébillot était la personne qui se rapprochait le plus du projet de fournir le grand légendaire de la France, voulu par Michelet. Comme Michelet, Sébillot était aussi un militant républicain, ce qui pourrait expliquer son enthousiasme pour ce type d'histoire paysanne, largement négligé par les folkloristes de la génération précédente, qui étaient plus intéressés par la poésie populaire ou des souvenirs d'un passé plus ancien. En 1897, Sébillot a utilisé sa position en tant que rédacteur pour inciter ses lecteurs à chercher ce qui serait désormais identifié dans l'index de ce journal comme des petites légendes locales, de courts récits, parfois pas plus qu'une phrase, qui se reportaient à un fait apparemment historique, même si ce naturel. La réponse à cette demande fut énorme. Et moins de 10 ans plus tard, la revue avait déjà publié sa 1000e légende. Ces légendes sont venues de plusieurs sources. Sébillot avait mis en place un important réseau de contributeurs dans les provinces qui lui envoyaient des textes pour cette collection. Ses correspondants, comme Sébillot lui-même, ont été membres des sociétés savantes qui ont organisé des visites aux monuments féodaux et ont recueilli des renseignements sur leur histoire légendaire. Sébillot a utilisé également les monographies de village que le ministre de l'Instruction publique a commandé à tous les instituteurs de faire pour chaque commune dans le cadre des préparatifs pour les expositions internationales de Paris en 1889 et aussi en 1900. Les instructions du ministre ont spécifiquement mentionné les légendes locales. Il faut reconnaître que tous les instituteurs n'ont pas répondu avec le même enthousiasme. En outre, la fin du XIXe siècle a vu les débuts en France du tourisme, sinon de masse, du moins d'un certain nombre. Des clubs nationaux de tourisme ont été mis en place pour enfin informer le membre sur les sites à voir. Et les syndicats d'initiative ont médiatisé les monuments dans le voisinage. Et les deux ont engendré une grande profusion de guides qui ont souvent fait mention de légendes attachées aux ruines ou aux églises. Et ceux-ci ont été également consultés par Sébio. La collection des petites légendes locales est par conséquent non seulement une source précieuse en elle-même, mais elle indique aussi une profusion de textes encore plus denses. Certes, ces légendes ont été souvent privées de toute information contextuelle et réduites à leur forme la plus anecdotique et pittoresque. Pourtant, même dans cet état tronqué, elles confirment que les crimes des seigneurs féodaux étaient un des thèmes parmi les plus populaires parmi les contes ruraux. Par exemple, on raconte à Coado, Côte d'Amour, que chaque nuit, le seigneur du bois de la roche vient visiter sa forteresse. Son âme inquiète gémit tout haut dans l'étroit et sombre escalier de granit, et l'on entend le bruit sourd des coups de pioche qui dorment pour déterrer son trésor enfoui. C'est légende 45. Des dizaines de châteaux étaient soupçonnés d'être le site d'un trésor amassé ou encore jalousement gardé par les seigneurs fantômes. La source de cette richesse est clairement spécifiée, mais il ne faut pas un grand effort d'intuition pour interpréter cette légende comme un jugement pesant sur les ex-stockeurs féodaux. Un autre, le château de Goazamon, en Plouésie, fut frappé de la foudre un dimanche pendant la grande messe, en punition, dit la légende, de l'impiété de ses habitants, lesquels employaient habituellement le temps des offices à jouer aux cartes. C'est légende 48. L'impiété seigneuriale est une source féconde pour les légendes. Les chasseurs qui ont osé violer le sabbat sont condamnés à chasser éternellement à travers le ciel de nuit, comme cela est arrivé au comte de Valerie de Saint-Hélier, Maine-et-Loire, c'est légende 295. Le phénomène surnaturel de la chasse sauvage, signalé dans toutes les régions de France, trouve souvent son origine dans de tels actes de sacrilège. Un autre, la baronne de Montfort, qui de son vivant faisait mettre au carcan les gens qui ne la saluaient pas comme elle voulait, erre sous la forme d'une luve que l'on ne peut tuer. D'autres châtelaines ont baigné dans le sang de jeunes filles, ont mangé les bébés ou ont jeté des enfants à leurs chiens. Des seigneurs ont conçu des punitions horribles pour les femmes adultères, comme les rouler dans un tonneau clouté, les étrangler ou utiliser le pot pour faire une chaise. Certaines légendes concernent des seigneurs charitables. Bien que ces narrations ne fassent guère mention de leur bonne œuvre, mais plutôt se concentrent sur leur conversion. Selon des légendes bretons, Pierre le Gouvelot de Kerriolet et Marot de la Caille ont tous les deux mené des vies dissolues jusqu'à un avertissement fantomatique du feu de l'enfer qui les attendait. Ces révélations apportaient un changement de cœur dans les deux cas. La mémoire locale a besoin d'expliquer pourquoi ces seigneurs, tous les deux bien attestés dans l'histoire, étaient si différents de leur père. Comme Sébio l'a noté, dans les légendes, le peuple apparaît assez souvent, mais n'est en réalité qu'un personnage secondaire qui semble graviter dans l'orbite de ceux qui détiennent la puissance religieuse ou féodale. La punition, dans la plupart des cas, n'est-il pas humaine mais divine. Cependant, nous trouvons quelques indications de l'agence paysanne et de la résistance. Dans la même année où la revue a publié la légende de la mort du monsieur Pic, deux autres légendes ont rapporté des assassinats de seigneurs. Dans le premier, le seigneur de Bosranger, puis de Dôme, avait ordonné que personne ne doive observer le cortège de mariage de sa fille. Malheureusement, le fils du charbonnier, vaincu par le désir de voir cette beauté célèbre, a été attrapé et pendu. Pour se venger, le charbonnier a kidnappé le fils du seigneur, l'éleva comme un brigand et enfin l'a poussé à tuer son propre père. Dans le second, le seigneur tyrannique de Montcouton de Sèvres a été abattu à travers sa fenêtre, tout en somnolant. C'est dans cette position, je cite la légende, que ces gens le retrouvent le lendemain, déjà froid et le cœur traversé par la plombe du paysan. Je ne suis pas en mesure de déterminer si l'un ou l'autre histoire a, comme celui de M. Pic, un fondement dans la réalité. En dépit de cette abondance de matériel, Sébio se plaignait néanmoins que les paysans aient conservé un très petit nombre de souvenirs historiques. Cette déception face au rôle du paysan comme historien est un discours récurrent parmi les folkloristes du XIXe siècle. Jules Sand avait déploré ce même manque en 1856. Cette déception remonte à une observation de Sébio, à savoir qu'il y a beaucoup de points de ressemblance entre les légendes, même si celles-ci prétendent dire quelque chose de précis sur des lieux et des événements particuliers. En étant presque les mêmes histoires sur des endroits et des personnes largement dispersées dans l'espace et le temps, Sébio a appelé ces ressemblances lieux communs. Les légendes de la Dame Blanche ou le Seigneur fantomatique sont réapparues dans de nombreux endroits différents à travers la France. Pour chaque légende d'un Seigneur de Loué, dont l'origine pourrait être fixée à un moment donné, il y a plusieurs autres qui sont trop génériques pour être identifié à un personnage ou un événement historique précis. Il est devenu évident pour Sébio que les légendes étaient très mobiles et qu'elles ont une tendance marquée de s'arrêter autour des figures qui avaient déjà une réputation dans la tradition orale. De même manière que toutes les nombreuses légendes différents bondis finissent par être associées avec un seul, un Robin des Bois. Aujourd'hui, les folkloristes appellent ce type de légende une légende migratoire. Et ils ont développé une typologie pour les enregistrer, pour les définir et pour démontrer les liens de l'une et l'autre. Même si ces légendes sont toujours présentées comme vraies, pour un lieu ou un moment spécifique, elles sont difficiles à accepter comme historiques, étant donné que la même légende est racontée sur un autre château, un autre seigneur, à 10, à 100 ou même à 1000 kilomètres. Le fait que des histoires très semblables ont été racontées sur des événements distincts a endommagé la réputation du paysan comme historien. Cependant, plus récemment, les historiens oraux ont observé un phénomène similaire. Mais plutôt que d'abandonner leur méthode, ils l'ont utilisé à leur avantage. Ils ont appris à examiner les inexactitudes apparentes dans les récits qu'ils enregistrent pour explorer les préoccupations collectives de leur sujet. C'est par exemple le cas d'Alessandro Potelli. Un autre exemple, Neil O'Shawson a posé une taxonomie de la mémoire. Il a divisé les histoires orales racontées au sujet de la grande famine en Irlande entre la mémoire locale et la mémoire populaire. La mémoire locale cite les individus, les noms de lieux spécifiques, et est probablement fiable. Mais la mémoire populaire se compose, je cite, d'un répertoire stylisé d'images, de motifs, de chorécies et légendes surnaturelles, dont beaucoup font partie d'un répertoire international plus large et qui forment un système de représentation, ainsi qu'un guide de comportement. En d'autres termes, les légendes offrent des interprétations plutôt que des faits. Les légendes ont donné une forme à des expériences plutôt que de les simplement enregistrer. Dans le processus de doter ces événements d'une signification, les conteurs se sont appropriés d'un corpus existant de traditions de sagesse collective au sujet de famine. C'est-à-dire que Michelet avait raison. Les légendes sont l'expression d'une imagination populaire et collective. Les légendes ont exprimé une expérience et simultanément ont formé le cadre dans lequel on peut comprendre cette expérience. Bien sûr, cela est vrai pour d'autres genres traditionnels, oraux comme les contes, les proverbes, mais peut-être cela est plus vrai pour les légendes parce que la légende est destinée à être crue. Ou du moins, elle est destinée à être dite comme si elle est vraie. Et quand je cite ici Tim Tangalini, folkloriste américain, et ce que l'on croit être vrai est intimement lié à l'idéologie culturelle, les normes, les valeurs et les attentes d'un groupe culturel particulier. Cette dimension idéologique nécessite que les historiens prennent en compte les légendes. Elle nous aide à comprendre pourquoi les gens se sont comportés comme ils l'ont fait. On pourrait faire valoir que les légendes, en dépit de leur caractère historique, ne sont pas vraiment concernées par le passé. Elles sont tournées vers le présent et l'avenir. Elles discutent des types de conflits qui ont surgi dans le passé précisément parce que ces mêmes types de conflits sont susceptibles de survenir à nouveau. Et en même temps, elles suggèrent des stratégies pour survivre à ces conflits. On pourrait soutenir que, compte tenu de l'abolition de la féodalité, ces légendes ne répondent plus à des fins stratégiques et pourraient être oubliées sans aucun danger. Cependant, la culture orale est nécessairement conservatrice. Tout doit être répété quand on ne sait pas si ce sera utile ou non. Ou on pourrait, comme Arno Meyer et Albert Sobule, insister sur la continuation de l'ancien régime sous de nouveaux noms, de sorte que les légendes restent fonctionnelles. De toute façon, la performance d'une légende comme celle racontée par Marianne de Marialon est un acte politique. Elle essaie non seulement de façonner le regard porté par son audience sur le propre passé, mais ce faisant, elle essaie d'influencer leur action dans le futur en soulignant notamment les solidarités sociales et les divisions sociales. Ceux qui partagent ou viennent à partager à travers la légende une vision particulière du passé peuvent, comme Michelet a cru et espéré, être mobilisés pour une action collective dans le présent. J'ai mentionné plutôt que plusieurs historiens comme Peter Jones et Roger Price cite la mémoire de l'Ancien Régime comme un facteur important dans la prise de décision des paysans. Elle y considère que pour les paysans, c'était des facteurs locaux qui importaient le plus. Pour cette raison, les électeurs ruraux sont restés paysans, enfermés dans une autarcie régionale désespérée, plutôt que de devenir des Français, pour répondre les termes utilisés par Eugène Weber. Cependant, alors que les légendes concernant les seigneurs et le féodalisme semblent être locales, en fait, beaucoup d'entre elles faisaient partie d'un répertoire de récits largement diffusés et qui pourraient être adaptés à de nombreux endroits différents, soit en France, soit dans d'autres parties d'Europe. On peut trouver des légendes allemandes à propos des seigneurs convertis à la charité par un rêve, des légendes tchèques des dames blanches, des légendes estoniennes au sujet des seigneurs forcés d'expier le péché, ainsi de suite. Pour revenir au problème de la non-disparition des paysans que j'ai soulevé au début de cette conférence, une explication pourrait être que les paysans ont partagé une culture commune qui transcende les frontières communales et même nationales et linguistiques, et qui a fourni un cadre commun qui leur a permis de comprendre les relations sociales. Un paysan pouvait reconnaître un autre paysan parce qu'il connaissait les mêmes légendes sur les seigneurs. Ce patrimoine collectif pourrait être une source de l'union, de la fierté même, qui pourrait mobiliser les paysans pour défendre leur position, même dans un monde en mutation. C'est la fin.